mois d'octobre, j'avais choisi quelques versets du chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens pour introduire notre étude. Et aujourd'hui, je pense que ce sont quelques versets du chapitre précédent. On reste dans le même sujet général qui conviendront le mieux. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 3, d'abord les versets 4 à 10. Quand l'un dit « Moi, j'appartiens à Paul », et un autre « Moi, à Apollos », êtes-vous autre chose que les humains? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations. Et si quelqu'un d'autre bâtit dessus, que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Je lis encore les versets 21 à 23. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient, mais vous, vous appartenez au Christ. Et le Christ appartient à Dieu. Ce passage met l'accent sur le rang tellement inférieur à Dieu de tous les serviteurs dont il fait usage, dont il consent à faire ses messagers, ses collaborateurs, comme dit le texte. Mais en même temps, le texte met l'accent sur la diversité. L'un plante, l'autre arrose, l'un pose la fondation, l'autre construit dessus. Et les quatre théologiens, penseurs, hommes d'action aussi, que nous allons brièvement décrire aujourd'hui, sont très différents. Nous allons voir qu'ils s'opposent pratiquement chacun aux trois autres sur plusieurs plans. Ils sont très différents. Pourtant, je crois que nous pouvons dire qu'ils ont tous servi le dessein de Dieu et qu'à tous, nous avons une certaine dette. C'est inégalement, selon que leur rôle n'a pas été le même et leur fidélité peut-être pas tout à fait au même niveau. Mais je crois que nous pouvons remercier le Seigneur pour les quatre. Et tous, ils appartiennent à la période de l'extrême fin du XIe siècle et surtout la première partie du XIIe siècle, c'est-à-dire les dates en 1100, autour de l'année 1100. Et je soulignerai d'abord, avant de présenter les quatre, l'importance de cette période. Je suis venu à la considérer de plus en plus comme une date pivot dans l'histoire générale et dans l'histoire de l'Église également. Le père Congar, qui est cardinal plus tard, peut dire dans un de ses livres que si un homme du XIe siècle, de date 1000 et quelques, s'était réveillé au XIIe siècle, il aurait eu l'impression d'être dans un autre monde. Et effectivement, je crois que les choses ont beaucoup changé. Le haut Moyen-Âge, jusqu'au XIe siècle, jusque vers 1000 et quelques, a été un temps très difficile. Les invasions dites barbares, ont fait s'écrouler l'Empire romain, il en est resté bien peu, la culture a décliné, les villes se sont vidées, la démographie même montre que la population a diminué de manière prodigieuse. Nous avons l'habitude des croissances de population, Mais d'après ce que reconstituent, alors toujours une marge d'erreur, d'après ce que reconstituent les spécialistes, c'est au moins la moitié, et peut-être les deux tiers de la population de la fin de l'Empire romain qui ont disparu dans le changement de ces siècles-là. Ce sont des siècles réellement sombres. Mais les choses ont commencé à changer au XIe siècle. Là, il y a un véritable tournant qui se produit. Diverses causes peuvent être envisagées, je ne détaille pas, mais je vois surtout ce que j'ai lu à Pierre Chaunu, l'historien Pierre Chaunu. Il y a la trêve de Dieu que l'Église a réussi à instaurer. Quelques jours de la semaine où les seigneurs voisins ne se battaient pas avec tous les dégâts qu'ils faisaient aux cultures, etc. Ça a déjà amélioré les choses, cette trêve de Dieu. Il y a eu des innovations techniques assez nombreuses. Et il y en a deux en particulier qui sont très intéressantes, qui ont beaucoup élevé le niveau de vie général. On est moins resté à la merci de la moindre mauvaise récolte pour qu'une famine éclate et que la population de nouveau diminue. Il y a eu l'innovation du moulin à eau le plus souvent, dans certains cas moulin à vent, qui a libéré beaucoup de main-d'œuvre féminine en particulier. Quand il faut tout mouliner à bras, c'est une perte d'énergie prodigieuse. Alors, la chose existait, mais c'est au XIe siècle qu'on voit commencer à se construire des moulins qui vont beaucoup soulager, permettre des rendements meilleurs, et pour ces rendements meilleurs, alors, des techniques agricoles nouvelles, en particulier la charrue. La charrue tirée par des animaux, alors qu'auparavant, le gros de l'affaire se faisait avec l'arrière, à peine supérieur à la pioche, c'est un instrument très, très rudimentaire, qui ne permet que la surface, qui ne permettait pas d'exploiter des sols très lourds et humides, alors que la charrue, traînée par des bœufs et des chevaux, pouvait retourner des terres en profondeur et rendre cultivables des espaces qui ne l'avaient pas été, de telle sorte que ça a vraiment changé les choses. Alors ça commence au XIe siècle. Et déjà, il y a une traduction dans la vie, qu'on pourrait dire, culturelle et ecclésiale. Là, deux changements importants, mais ça reste encore quand même germinal au XIe siècle. Vous avez un réveil de la discussion, un réveil de la controverse, qui veut dire que les gens commencent à penser, à échanger des arguments. Il y a une controverse sur la transsubstantiation, comme on l'a appelé plus tard d'ailleurs, et comment est-ce que le pain devient le corps de Jésus-Christ. Il y a eu un Béranger à Tours qui a dit, mais non, ce n'est pas littéralement, il a défendu la thèse, et il a été très très sévèrement sanctionné. Il y a eu tout un débat, c'était dans les monastères que ça se passait à l'époque. Mais ça commençait à se réveiller. Et puis il y a eu la réforme grégorienne dans l'Église d'Occident tout entière, avec un pape, Grégoire VII, qui s'appelait Hildebrand de son nom. Et il a effectué une centralisation. Il a réussi un accroissement des pouvoirs du pape déjà prodigieux. Cette réforme vraiment marque une date. Et il y a des thèses sur le pape qui peut révoquer les évêques, qui est au-dessus de tous les évêques, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, etc., qui sont vraiment des thèses d'un dictatus papae de cette réforme grégorienne. Et ça a changé les choses. Plus d'efficacité, plus de pouvoir temporel aussi pour les papes, qui s'arrogeait le droit de déposer les empereurs, qui estimaient que le pouvoir spirituel inclut le temporel également. Et cela, c'est un changement de la deuxième partie du XIe siècle. Et nous arrivons au moment ce changement commence à porter des fruits, commence à s'épanouir, un essor se crée. Les écoles vont se multiplier et prospérer, elles vont passer des monastères, où elles sont encore à la fin du XIe siècle, aux écoles cathédrales, aux villes où les évêques créent des écoles à côté de leur cathédrale. La cathédrale, c'est l'église de l'évêque, de sa chaire cathédrale. Et ça, c'est un changement important. Il va y avoir des centres de réflexion, de science aussi. À l'époque, il n'y a pas de séparation si forte entre la théologie, la philosophie et les sciences, comme des centres de rayonnement intellectuel importants. Au XIXe siècle, des controverses. Et ça va évoluer, alors là, c'est la période que nous ne considérons pas aujourd'hui, mais au XIIIe siècle, avec les universités. À leur tour, les écoles cathédrales vont être remplacées comme foyer de vie intellectuelle par les universités. Elles datent de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, les plus vieilles universités d'Europe. Un mouvement s'est mis en marche, et donc nous considérons quatre hommes d'église qui ont été importants dans la première partie du XIIe siècle. Pour le premier, déjà la fin du XIe siècle. Anselme. Anselme, Saint Anselme, il a été canonisé. Saint Anselme, dit de Canterbury, la ville du primat d'Angleterre. Donc, il est soigné, mais parce qu'il a fini archevêque de Canterbury. En fait, il était né à Aoste, dans le Val d'Aoste, cette partie d'Italie où l'on parle encore français, le français. Et le gros de sa carrière, si on peut parler ainsi, c'est en France. Il s'est déroulé à l'abbaye du Bec. Jeune fils d'un seigneur du Val d'Aoste, il a eu la vocation de rentrer dans les ordres et le clergé régulier. Il avait entendu parler de l'abbé du Bec en Normandie. Et il ne reste plus que des ruines, hein, c'est pas très bien, je vais vous visiter une fois. Qui avait pris part à la controverse contre Béranger. Et il a décidé d'aller là. Alors il est assez vite devenu prieur, c'est-à-dire le numéro 2 en dessous de l'abbé. Et puis, quand cet abbé est devenu archevêque de Canterbury, il est devenu l'abbé du Bec, Anselme, et puis quand son prédécesseur est mort, il a été appelé à son tour au siège archiépiscopal d'Angleterre. Et comme ça qu'on dit Anselme de Canterbury. À l'époque, il n'y avait même pas le Brexit, hein, mais comme l'Europe, ça existait. Bon, ça n'a pas été de repos. Sur les 16 années de son ministère d'archevêque, il est mort en 1909, il en a passé au moins 7 sur le continent à cause de ses disputes avec le roi. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a deux rois successifs. Parce que le fait que l'Église était une puissance temporelle avec le pape, cette union du trône et de l'autel, mais ça impliquait aussi concurrence, ça impliquait aussi conflit. Ce Moyen-Âge est un Moyen-Âge donc, où le christianisme est religion établie, mais où les évêques et suprêmement le pape et les princes, les rois, les empereurs sont constamment en train de se disputer. Parce que précisément, ils se placent sur le même terrain. Alors cela est assez typique de l'Occident parce qu'en Orient, l'empereur de l'Empire d'Orient à Byzance, qui est devenu par la suite Istanbul, aujourd'hui Istanbul, était en fait le maître de l'Église. Il n'y a pas l'équivalent d'un pape. Il y a des patriarches régionaux, puis au bout du compte, ça fait des patriarcats nationaux, jusqu'à nos jours, mais le patriarche de Constantinople, il n'a pas les pouvoirs du pape. Et du coup, il y a moins de conflits, parce que c'est l'empereur, le César qui domine tout. Mais en Occident, une des raisons, je dirais, qui prépare la laïcité occidentale, c'est cette rivalité entre le pouvoir politique et le pouvoir pontifical au long du Moyen-Âge. Anselme a produit son œuvre qui a marqué l'histoire de la théologie et de la philosophie. Il y a des congrès de philosophie encore sur ce qu'il a proposé de nos jours. A construit son œuvre essentiellement quand il était abbé du Bec, qu'il a créé encore un peu après. Et il avait de grands pouvoirs intellectuels, une personnalité très différente. Il est disciple de Saint-Augustin, nous avons parlé d'Augustin la fois dernière. Ils le sont tous à cette époque, officiellement. Mais il a un tout autre tempérament. Ce n'est pas le penseur agile, frémissant, c'est le penseur presque hiératique, rigide, mais avec une logique, d'une rigueur admirable, une profondeur admirable. C'est un moine, c'est pas moine. Il a adopté pour programme la foi en quête d'intelligence. Il y a la foi. Il faut commencer par la foi. Mais quand on croit quelque chose, il faut essayer de le comprendre. Il faut faire des efforts systématiques, méthodiques, pour comprendre ce que l'on croit. On ne peut pas comprendre si on ne croit pas d'abord. Et en cela, il est fidèle à Augustin. Mais une fois qu'on croit, il ne faut pas se contenter de ce qu'on n'appelle pas encore à l'époque la foi du charbonnier, mais vous voyez, une foi qui ne s'interroge absolument pas sur les raisons. Il faut faire un effort pour comprendre. Et c'est là son programme de théologie. Et là, sa mise en œuvre fait de lui le père de la scolastique. La scolastique, c'est l'étude scolaire de la théologie en premier lieu. L'étude de ce qu'on croit, mais en se donnant les moyens scolaires, des livres, du temps, des lieux, des débats. Oui. Donc on considère que Saint-Anselme est le père de la scolastique. Et il a marqué tout spécialement l'histoire de la pensée et de la pensée chrétienne sur deux plans. Sur le plan de la conviction de l'existence de Dieu et sur le plan de la doctrine de la rédemption. Nous croyons que Dieu existe. Nous ne croyons pas seulement que Dieu existe. Nous croyons, parce que le psaume 14 le dit, qu'il est fou de nier l'existence de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc c'est une vérité de foi que le caractère insensé, fou, de la négation de l'existence de Dieu. Cela, je le crois, dit Anselme. Mais maintenant, j'aimerais le comprendre. Qu'y a-t-il d'insensé à nier Dieu? On peut très bien estimer que c'est une erreur et penser que c'est pas fou. Donc, qu'y a-t-il d'insensé, de fou? Alors, il raconte dans le prologue de son livre consacré à ce sujet, qui s'appelle le Pros Logium, il raconte qu'il a cherché très très longtemps, il y pensait, il ruminait ça, il était en voyage, etc. Jusqu'à, alors il rend grâce au Seigneur, parce que le Seigneur a illuminé son esprit, pour qu'il comprenne, il rend grâce au Seigneur, que tout à coup, il a compris, il a trouvé le moyen de démontrer par la raison qu'il est insensé, comme le dit la foi, de nier l'existence de Dieu. Alors je vous résume, nous n'avons pas discuté longtemps, ça serait trop de temps. Il y a un an et demi, j'étais invité à parler aux jeunes pasteurs et proposants de la faculté de théologie protestante de Montpellier. J'avais choisi ce sujet, et ça s'est bien passé. Donc je pourrais en parler bien plus longtemps, mais je vous dis l'essentiel, qui est tellement simple, tellement évident que beaucoup de gens n'ont pas voulu le croire. Mais on en discute encore aujourd'hui. Des très grands philosophes comme Descartes l'ont compris. Le nom Dieu, on peut lui donner un synonyme, une expression synonyme de même valeur. Et selon Anselme, personne ne niera l'équivalence. Dieu est celui dont on ne peut concevoir de plus grand. Si je dis Dieu, je veux dire cela, en fait. Celui dont on ne peut concevoir de plus grand. Sitôt que je remplace le nom Dieu dans la phrase « Dieu n'existe pas » par ce nom équivalent, alors on voit la contradiction. Celui dont on ne peut concevoir de plus grand n'existe pas. Mais c'est une contradiction. Parce que s'il n'existe pas, on peut concevoir un plus grand qui existe. Pour lui, il est évident qu'exister, c'est plus grand que ne pas exister. Alors là, on pourra en discuter. Là, il ne se pose pas cette question-là. Pour lui, c'est une vérité de raison tout à fait certaine que l'existence, et dans le paragraphe suivant, il va démontrer que c'est l'existence nécessaire. L'existence nécessaire est plus grande que la non-existence. Donc, celui qui dit « Dieu n'existe pas » se contredit. Il associe un nom et un prédicat, on dit en logique, qui sont incompatibles. S'il nie Dieu, c'est pour prix de sa raison, il est insensé. Et je vous dis, Descartes a repris sous une forme qui est peut-être moins pure, moins transparente que celle d'Anselme et d'autres encore, Hegel et les théologiens évangéliques. J'ai suspect, je crois que. Avec mon commentaire, mais bon, ça c'est le premier grand apport d'Anselme. Deuxième grand apport, il l'a exposé dans un livre intitulé « Pourquoi Dieu homme ?»« Cur Deus homo ?» en latin. Nous croyons que Dieu s'est fait homme pour nous racheter. C'est ça là la vérité de foi. Pourquoi fallait-il qu'il use de ce moyen? Pourquoi Dieu s'est-il fait homme pour nous racheter? Il faut essayer de comprendre. Et il faut reconnaître que le problème n'avait pas été mis en lumière avec une grande rigueur, même chez les pères de l'Église, et alors dans le Moyen-Âge sombre, pas non plus. Augustin lui-même n'est pas. Nous ne savons pas d'avoir très bien vu les choses. Il y en a d'autres. Athanase, je pense, lui, l'avait quand même vu, l'avait dit. Mais c'était quand même un élément un peu décalé par rapport au centre de la pensée d'Athanase, dont nous avons dit un mot précédemment au printemps. Pourquoi Dieu homme? Parce qu'il s'agit de satisfaire à l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu a été bafoué par la désobéissance de l'homme. Et il est là dans l'optique de cette époque féodale, lorsque le Seigneur voit son honneur insulté, il faut qu'il y ait réparation. Il faut donc que le fossé donne satisfaction pour réparer l'offense. Mais l'homme est absolument incapable d'apporter une satisfaction qui puisse, en quelque sorte, venger l'honneur de Dieu, c'est absolument impossible. Or, Dieu veut racheter, sauver cette humanité. Évidemment, Dieu pourrait la détruire, la punir simplement, puisque, comme le Seigneur outragé, le fait d'un vassal qui l'a nargué. Mais Dieu ne le veut pas. Alors, c'est sa miséricorde. Anselme l'a certainement vu aussi, la compassion de Dieu, mais il a quand même une théorie un peu bizarre qu'il associe. Il a l'idée que c'est très important d'avoir un nombre parfait, et que le nombre, donc, des personnes, des êtres qui peuplent le ciel, était un nombre parfait, mais que tout cela a été ruiné par la défection des anges qui ont suivi Lucifer, Satan, et donc le nombre n'est plus parfait. Donc Dieu veut racheter des hommes pour rétablir le nombre parfait dans le ciel. C'est, disons, selon Anselme, une motivation de la volonté de rédemption. Mais comment faire? Dieu ne veut pas détruire cette humanité qu'il a insultée. Comment faire pour que la satisfaction due à son honneur soit effectivement donnée. Une seule solution, que Dieu se fasse homme lui-même. Dieu s'est fait homme pour prendre la place de l'homme coupable dans la réparation qui lui était due, de telle sorte qu'il a satisfait la justice et l'honneur de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire en Jésus-Christ, nous rachetant, nous libérant de tout l'effet de la malédiction. Voilà le schéma. Alors, il est très près du schéma qui sera de nouveau mis en lumière à la réforme et que nous prêchons, nous croyons biblique. C'est quand même pas tout à fait ça, parce qu'il n'a pas vu que c'était d'abord la justice, avant l'honneur de Dieu, que l'Écriture met en avant, et que pour satisfaire la justice, il faut que la punition soit appliquée. Il n'y a pas d'autre moyen de satisfaire la justice. Et ça, il n'a pas vu, l'enseignement. Comment est-ce qu'il pense que Jésus, Dieu devenu homme, a réparé l'offense en offrant une œuvre surérogatoire, en se donnant à la mort pour honorer Dieu? Il ne subissait pas la peine du péché, mais il apportait une œuvre d'hommage au Seigneur, en quelque sorte un holocauste de toute sa vie, qui réparait, qui donnait à Dieu un honneur réparateur. Il le contint dans son livre, hein, je le précise parce que beaucoup de gens l'ignorent. Je crois que c'était déjà la doctrine que la réforme a mis en lumière. Non, a mis en lumière. Il le compare à l'œuvre surérogatoire du célibat des prêtres par opposition au mariage. Ils auraient le droit de se marier, pas les prêtres, mais s'ils ne voulaient pas devenir prêtres. En tant que chrétiens, ils auraient le droit de se marier. Mais ils en font plus. C'est une œuvre en plus de ce qui est exigé, c'est ce que veut dire le mot surérogatoire. C'est une œuvre en plus de ce qui est exigé, donc qui acquiert du mérite devant Dieu, qui glorifie Dieu spécialement. Et la mort de Jésus, c'est une œuvre surérogatoire qui se compare au célibat, qui apporte au Seigneur donc l'hommage, l'honneur qui répare pour la faute humaine. Donc, il a bien dégagé un schéma logique qui va être très utile par la suite. Il n'a pas tout à fait compris quand même. Mais c'est un apport indubitable. Alors, il en a fait d'autres. Un autre que, comme protestant, nous ne sommes pas si heureux qu'il ait fait, il a promu la piété mariale. Là, il a été l'un de ceux qui ont fait avancer la part de Marie dans les prières. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y a une ambiguïté qui demeure, et de nouveau les experts en discutent jusqu'à nos jours, sur cette preuve rationnelle qu'il ajoute. Est-ce qu'elle remplace la foi une fois qu'elle est faite? Il faut commencer par la foi. Mais une fois qu'on l'a démontré, en le sens où on n'a plus besoin de croire, on le voit par l'intelligence. Ou bien, est-ce que pour lui, cela reste strictement dépendant du présupposé de la foi? De telle sorte que ce n'est pas une raison indépendante, autonome, qui procède à la démonstration, mais une raison dans le sillage et dans le service de la foi. Je pense qu'il ne s'est pas tout à fait posé la question. Et que donc les textes ne permettent pas de répondre de manière tout à fait certaine à cette question. Certains commentateurs, comme le théologien Karl Barth, par exemple, pour le prêtre, persuadés que pour lui, ce n'est pas une raison autonome du tout, etc. Mais c'était un événement dans la vie de Karl Barth, hein, que cette méditation de l'œuvre d'enseigne. Tout ça pour vous montrer l'actualité encore de cet apport de Rosaine. D'autres le considèrent plutôt comme un rationaliste qui se passe finalement de l'obéissance de la foi une fois qu'il a démontré. Oui. Donc, Anselme, auquel nous devons, je crois, beaucoup, parce qu'il a clarifié cette vérité pourquoi du homme, et aussi pour sa mise en lumière du caractère insensé de la négation de Dieu. Anselme n'a pas été totalement satisfaisant à tous égards. Deuxième que nous considérons, deuxième, Pierre de Bruys. Autant Anselme est connu, fait l'objet de colloques encore aujourd'hui et a été canonisé, autant Pierre de Bruys est peu connu et mal connu. On a tout ce qu'on sait de lui, on le sait par les écrits de ses adversaires. En particulier le livre de Pierre le Vénérable, qui était un abbé clunisien du mouvement des moines de Cluny, qui a attaqué Pierre de Bruys. D'autres mentions autrement, mais toujours des adversaires, ceux qui l'ont conduit au martyr. Car Pierre de Bruys a été lucide et fidèle à cette lucidité qui lui avait été donnée jusqu'au martyr. On ne sait pas sa date de naissance, on sait sa date de martyr, de mort en 1126. Il a prêché une vingtaine d'années auparavant, donc vous voyez, c'est la première partie du XIe siècle, en Provence, essentiellement dans le Languedoc, dans le midi de la France. On pense qu'il était un moine au départ, mais ça, on n'a pas une entière certitude. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché qu'il fallait revenir aux évangiles et à l'Écriture sainte. Il a prêché que le sacrifice de la messe n'était pas biblique du tout. Il a prêché qu'il ne fallait pas prier pour les morts. Il a prêché que le baptême des enfants n'est pas biblique. Pratiquement tout ce qu'on sait de lui fait de lui un évangélique. Qui l'a payé du martyr, qui a été jusque-là. Parce qu'il était plus lucide que son temps sur beaucoup des choses. Il y a peut-être un point sur lequel nous ne pourrions pas le suivre. Dans son zèle contre la messe, ce qu'il était devenu, avec tous les abus, et puis aussi, justement, le visage temporel, mondain de l'Église de son temps, il semble avoir suggéré que le repas du Seigneur, c'était seulement pour le premier siècle, pour les disciples du premier siècle, et nous ne suivons pas là-dessus. Si vraiment il a enseigné, nous n'avons que les témoignages de ses adversaires, donc il a peut-être été caricaturé. Mais je crois que nous pouvons vraiment saluer en lui un précurseur remarquable qui a eu un successeur immédiat. Alors je ne l'ai pas mis dans les quatre, mais en fait, au cinquième, si vous voulez. Il est avec Pierre de Bruys, c'est Henri de Lausanne, qui aurait été lui d'origine italienne, qui a commencé en 1101 à prêcher dans la région du Mans. C'est l'évêque du Mans qui lui a donné un mandat de prédication, puis qui a rejoint Pierre de Bruys en Provence. Là, considéré comme son maître, a vraiment suivi et a prolongé son œuvre. Et heureusement, lui a pu vivre plus longtemps, jusqu'en 1146, je crois. Donc, il y a eu tout un mouvement non négligeable de pétrobusiens et de henriciens, comme on a appelé les chrétiens de cette époque, qui ont reconnu que c'était le message qu'il fallait recevoir. Alors, ils ont été persécutés, mais il y a sans doute eu une postérité vraiment importante. À la fin du XIIe siècle, vous savez qu'il y a eu Pierre Valdo, on l'appelle Pierre, c'est pas tout à fait sûr, marchand de Lyon, qui lui aussi a été un messager de l'Évangile contre la corruption de l'Église de son temps, et c'est lui qui était l'ancêtre des Vaudois du Piémont, pas le canton de Vaud en Suisse, mais les Vaudois du nom Valdo, les Vaudois du Piémont, qui, parce qu'ils étaient dans la montagne, ont réussi à survivre aux persécutions. Il y a eu des persécutions horribles au temps de Louis XIV. Les Vaudois dans la Haute-Provence ont été massacrés, des oradours sur blâme par dizaines commises par les armées royale française. C'était épouvantable. Mais ils ont survécu quand même, parce qu'ils étaient dans les hautes montagnes des Alpes, les Piémont. Et lorsque les réformateurs du XVIe siècle ont prêché, ils ont reconnu que c'était l'Évangile. Ils avaient quelques habitudes à eux, ils les ont acceptés quand même de reconnaître. Et c'est eux qui ont financé la traduction de la Bible en français par le cousin de Camoin. C'est eux qui l'ont financé. C'est magnifique. Et les réformés italiens, jusqu'à nos jours, s'appellent les Vaudois. Alors malheureusement, comme les réformés français, ils ne sont pas restés tous fidèles. Il y a beaucoup de libéraux dedans aussi. C'est une église mélangée aujourd'hui, mais il y a eu une postérité remarquable. Et ceux qui avaient été donc conduits à l'évangile par Pierre et par Henri sont devenus les Vaudois. Vous voyez. Le mouvement vaudois a pris sur cette préparation en Provence, dans le midi de la France essentiellement, du ministère des deux que je mentionne. Vous voyez, donc très différent d'Anselme, mais notre dette envers lui, oui, nous pourrons la reconnaître. Troisième, Pierre dit Abélard, Pierre du Palais. Pierre du Palais, c'est un village près de Nantes, petite noblesse. Lui a vécu un peu plus tard, je les prends dans l'ordre. Il était né en 1179, il est mort en 1142. Il occupe vraiment la première partie du XIIe siècle. De lui, nous en savons plus que pratiquement sur tout autre, parce qu'il a écrit son autobiographie, Histoire de mes malheurs, car il en a connu des malheurs. L'un des plus malheureux et sans doute des plus mal compris. Déjà, de son vivant, sa combativité brillante, presque toujours victorieuse dans les joutes intellectuelles de ce début du Moyen-Âge discutailleur, lui ont valu des ennemis terribles et des rancunes qui finalement l'ont fait condamner. Alors, il n'est pas mort, martyr, mais la fin de sa vie a été très, 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 très dure. Et en même temps, sa vie a été un roman incroyable qui annonce les temps modernes de ce point de vue-là. Jeune homme, donc, au lieu de la carrière des armes, il s'intéresse. Son père lui avait permis de se cultiver, il avait lu, etc. Donc, il décide de suivre la carrière intellectuelle. Il va dans diverses écoles, mais à Paris, il est tout jeune. Mais il se donne le droit de reprendre le vieux maître à l'école cathédrale de l'île de la Cité à Paris, qui est entouré de fédérations. Il discute avec lui et il le ridiculise. Quand il est voyant, bien sûr, ça se pardonne pas. Alors on l'éloigne, mais on lui permet quand même, parce que comme le dit Philippe Wolff dans ce livre que j'ai avec moi, il n'est pas de grand homme qu'il ait des ennemis. Alors même le maître qui avait été de cette manière ridiculisé avait des ennemis, donc Abélard peut enseigner à Melun d'abord. Et tout de suite, les étudiants affluent. Alors il se rapproche de Paris à Corneille. Et puis finalement, il a tant de succès auprès des péripéties qu'il peut enseigner à Paris, à nouveau. Alors il enseigne à Paris, il est vraiment la star intellectuelle de l'époque, c'est certain. Et le chanoine de Notre-Dame, Fulbert, a une nièce qui est aussi brillante intellectuellement que jolie physiquement. Elle s'appelle Héloïse, elle a 17 ans, Abélard a plus de 30 ans, mais il est au fait de sa gloire. Et il demande à Abélard de lui donner des leçons particulières. Alors, ce qui devait arriver, est arrivé. Il tombe amoureux, éperdument amoureux l'un de l'autre. Ces leçons particulières, c'est assez dangereux. et le ministre devait être enceinte. Scandale, Fulbert est furieux. Abélard, qui n'est pas prêtre, offre d'épouser Héloïse. Mais la loi ne l'interdisait pas, mais la coutume l'interdit. Il y a cette idée qu'un philosophe, qu'un théologien, qu'un quelqu'un qui manie les idées, il doit être célibataire. Être marié, c'est tomber en dessous. Et alors, c'est Héloïse qui dit non, il y a une lettre. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous la lire, mais qui est en même temps très très drôle pour nous, et puis très touchante. Elle dit non, tu ne peux pas supporter, avec ton travail, tu ne peux pas supporter les cris d'un bébé, les couches à changer, non, c'est pas. Pas pour toi. Mais finalement, il l'épouse quand même, mais secrètement. À l'époque, les coutumes pour le mariage ne sont pas très bien réglées, et ça peut être secret. Fulbert ne l'apprend pas. Il croit qu'ils ne sont pas mariés, alors qu'il a promis de l'épouser, et Fulbert se doit des voyous qui surprennent le grand Bélard dans son sommeil et le jantre. Le mutile. Vous rendez compte. Le drame pour l'homme, le drame pour sa carrière, etc. Alors, Héloïse part au couvent. Et ils ont un enfant, hein, il l'appelle curieusement Astrolabe. Mais pas encore. Et lui, je considère complètement déconsidéré, etc. Ils sont en pleine campagne, en pleine carrosse, à une vingtaine de kilomètres de Nogent-sur-Seine. Et là, il se construit une petite cabane. Et voilà que le bruit s'en répond. Et que des étudiants arrivent de toute l'Europe, et commencent à construire des cabanes autour. Je réclame son enseignement. C'est incroyable. Et ils construisent une maison qu'il appelle le paraclet, en donnant au mot paraclet, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais le sens de consolateur. C'est sa consolation. Oui. Le paraclet. Encore, je vais visiter la route. Petite route départementale passe à côté, pas loin de Nogent-sur-Seine. Et alors, après quelques temps, il peut revenir à Paris, il reprend son enseignement. Il a aussi un épisode où il est nommé abbé d'une abbaye en Bretagne, où il veut réformer la vie des moines, qui essaye même de l'empoisonner. Histoire de même à puis, il sera de même chassé par les moines de Saint-Denis, parce qu'il leur dit « Votre Saint-Denis n'est pas celui qui a écrit ses ouvrages sous le nom Denis l'Aréopagite et qui est mentionné dans l'acte 17. » Alors, il le chasse. Et puis, il est poursuivi par la rancune de plusieurs, y compris de celui dont je vais parler ensuite, Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, Saint-Bernard de Clairvaux, est persuadé que Abélard est très très dangereux. Et il va s'arranger à la fin de sa vie, de la vie d'Abélard, de lui tendre un guet-apens, réunir un concile où tous les délégués, ceux qui siègent, sont contre Abélard. Bernard de Clairvaux a bien manœuvré. Alors, à Sens, ce concile de Sens, le pauvre Abélard arrive, il s'aperçoit que tout le monde est contre lui, il est condamné comme hérétique. Alors il dit, je vais faire appel à Rome, mais il a plus de 60 ans déjà, il prend le chemin, et finalement il s'arrête dans une abbaye de Pierre le Vénérable, celui qui avait attaqué Pierre de Poissy, qui là se montre humain et le recueille, c'est là qu'il meurt en 142. Alors du point de vue intellectuel, intellectuel, j'ai mis des sous-titres, je vous donne celui-ci, l'audace du questionnement. S'il a été si brillant, s'il a tellement remué les gens, c'est qu'il osait poser des questions et remettre en cause les choses qui avaient été admises jusqu'à lui. Il a écrit un livre, un de ses livres, sous le titre Sic et non, oui et non. Où il met ensemble des citations des Pères et des Fils qui se contredisent. Alors il ne le fait pas pour démolir, mais pour dire il faut savoir interpréter. Il le dit aussi pour l'écriture, mais jamais en prétendant qu'il y a des contradictions en écriture. Ça, il a bien fait attention de ne pas le faire. Mais vous voyez, c'est cette audace du questionnement dont les experts disent qu'il a du coup établi un niveau de qualité intellectuelle qui n'avait jamais été atteint avant lui et duquel on n'a pas pu descendre par la suite. Tous les grands de la pensée du Moyen-Âge sont devenus, ont été en quelque sorte des disciples d'Abélard. Et tout de suite après lui, Pierre Lombard, qui est évêque de Paris, d'ailleurs, mais a écrit le manuel de théologie qui a servi pendant 2 siècles pour tous les clercs du Moyen-Âge. Il avait été marqué par Abélard, son audace de questionnement. Alors, est-ce qu'il était orthodoxe ou pas? On l'a présenté, du fait de cette audace de questionnement, comme, si vous voulez, déjà un libéral. Et je pense qu'on ne peut pas exclure totalement cet élément, au moins dangereux, chez lui. Mais en même temps, je crois qu'il faut reconnaître que ce n'était pas son intention. Et qu'on l'a caricaturé dans ce sens, et je voudrais lire un passage de ce livre de Philippe Wolff. Dans le livre qui s'appelle Introduction à la théologie, qui est l'un des livres d'Abélard, on peut lire la phrase suivante. On ne croit pas parce que Dieu l'a dit, mais parce qu'on est convaincu qu'il en est ainsi. Admirable plaidoyer pour les droits de la raison face à la foi. Ce texte a été abondamment utilisé par les historiens qui voulaient faire d'Abélard le porte-drapeau de la libre pensée. Il a contraint les partisans d'un Abélard orthodoxe à un effort d'interprétation assurément compliqué. Or, le manuscrit sur lequel on s'est fondé pour publier ce texte est fautif. Un autre exemplaire a été retrouvé depuis lors et il a montré que le copiste avait oublié un membre de phrase et totalement transformé la pensée d'Abélard. Celui-ci, commentant un passage de Grégoire le Grand, déclarait que la foi pouvait n'être pas méritoire et que tel était le cas lorsque l'on ne croit pas parce que Dieu l'a dit, mais parce qu'on est convaincu qu'il en est ainsi. Voilà qui nous fait apprécier à sa juste valeur l'effort ingrat des éditeurs de textes. Donc je crois que même s'il y avait là pour déjà son comportement, il a quand même séduit la jeune fille, par certains éléments de sa pensée, a pu préparer des contestations de la foi, je pense qu'il a aussi servi de manière utile en ébranlant des pesanteurs dogmatiques, un poids de la tradition indue, donc que nous pouvons aussi être reconnaissants. Je n'ai pas dit aussi, Abélard et Héloïse ne se sont jamais revus, mais ils ont correspondu. C'est une correspondance extrêmement touchante, où il l'exhorte toujours dans un sens pieux, lui. Mais elle n'a jamais regretté son amour. Elle est devenue abbesse. Découvrons où elle était. Et Abélard a obtenu l'autorisation que le Paraclet soit une maison qui lui soit confiée. Et c'est devenu l'abbaye du Paraclet avec Héloïse comme abbesse. Vous voyez, il y a des petits traits comme ça qui sont intéressants. Bon. Alors Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, lui, il est né en 1880, donc en 1080, donc juste un peu plus tard qu'Abélard, et il est mort un peu plus tard aussi, en 1253. C'est un autre personnage qui, me semble-t-il, peut nous montrer deux visages. Je trouve qu'il a été quand même très, très méchant avec Abélard. Mais il a aussi été un grand homme. Un grand homme. Et ses commentaires bibliques sont très souvent cités par Calvin. Calvin aimait beaucoup Bernard de Clairvaux. Et puis il faut voir qu'il n'a pas été seulement un commentateur biblique, il a été un homme d'action, un meneur d'hommes incroyable. Alors à la fin du XIe siècle, l'ordre des moines bénédictins, l'ordre des moines qui avait sa maison mère à Cluny, était devenu trop riche. Et je crois que c'est Wolf, je ne sais plus, qui dit que son abbé était le numéro 2 de la chrétienté. Après le pape, immédiatement, hein, par le prestige, par le pouvoir. C'était un ordre extrêmement puissant. Et, comme toujours, mondanité, avec la richesse. Et alors, des jeunes, au début du XIIe siècle, font vœu de pauvreté renouvelée, de retour à la règle originelle de Saint-Benoît, et se donnent donc un programme d'austérité pieuse et partent de Cluny pour s'installer dans un petit village aussi, je ne sais pas bien, à Citeaux. C'est un lieu inhospitalier, ils sont un petit groupe, et on pense qu'au bout de quelques années, ce petit groupe avec son abbé allait disparaître. Quand en 1112, un jeune noble cultivé, moine de Cluny, arrive pour les rejoindre avec 30 compagnons. Bernard, le jeune Bernard. C'est un surdoué. Et à partir du moment où lui rejoint Citeaux, et donc c'est le mouvement dit cistercien à partir du nom Citeaux, il va grandir à une vitesse prodigieuse. Et il va y avoir des abbayes filles qui vont se multiplier, dont celle de Clairvaux, dont Bernard sera lui-même l'abbé, avec un rayonnement dans toute l'Europe incroyable. C'est un prédicateur qu'il prêchera dans la croisade vers la fin de sa vie, à Vézelay, en disant d'ailleurs de traiter les juifs comme la prunelle du Seigneur. Il a averti, il n'a pas été suivi, prédicateur. Il va intervenir dans les années 1130-32, il y a deux rivaux pour le siège pontifical. Il y a Innocent II et il y a Anaclet II qui se disputent, qui prétendent les deux papes. Et bien c'est Bernard de Clairvaux qui va faire triompher Innocent. C'est très clair. Il a une telle influence, c'est lui qui, en quelque sorte, fait le pape. Et un peu plus tard, c'est un de ses disciples, un moine de Clairvaux, qui devient le pape. Donc, c'est vous dire la puissance qu'il a eue. C'est en même temps donc, un prédicateur, un commentateur biblique, un mystique, tout à la fois. Alors, dans les voies de la piété, il a eu le sens de la grâce. C'est une piété très centrée sur le Christ, bien qu'il ajoute lui aussi à la Mariologie. Lui aussi, la piété mariale. Mais c'est quand même une piété très savoureuse. Il goûte la grâce et la communion de Jésus. Et c'est par là, sans doute, qu'il est, pour nous aussi, un homme dont Dieu s'est servi et dont l'apport peut être précieux. Il a joué à cette piété très centrée sur le Christ, un très fort accent sur l'autorité de l'Église. Ah, ça c'est typiquement catholique, il a préparé le catholicisme de cette façon, bien qu'il se soit opposé à l'Immaculée Conception. Ah, quand même, comme le fera encore Thomas d'Aquin au siècle suivant. Mais c'est quand même l'Église, et la figure de Marie correspond tout à fait à l'Église, et donc un poids d'autorité complémentarité sans doute à l'accent christocentrique. Mais cet accent-là nous fait du bien. Et il y a un cantique très fameux de lui, Jesu dulcis memoria, la douce mémoire de Jésus, dont une version, évidemment pas littérale, mais une version française a été réalisée par Théodore Monod. Il se trouve dans les Aides de la foi. Je vais vous le lire, ce cantique, qui est vraiment selon l'esprit de Bernard. Et il a été écrit donc en version française par Théodore Monod, qui est un ami de Rubens Sayas. Ce n'est pas le Théodore Monod explorateur, qui lui était le neveu de Théodore Monod, portant son nom pour cette raison sans doute, mais qui est devenu un protestant très libéral. Non, c'était un évangélique, Théodore Monod, et voici le cantique. De Jésus, la souvenance donne à l'âme un vrai bonheur. Douce en est la jouissance, de sa divine présence, du miel passe la douceur. Du miel passe la douceur. Non, rien de plus agréable ne se chante en aucun lieu. Point de parler plus aimable, de pensée plus délectable que Jésus, le Fils de Dieu. Que Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, même le rebelle, dès qu'il t'implore, est sauvé. Et si ta grâce est fidèle, pour qui te cherche, qu'est-elle? Pour celui qui t'a trouvé. Pour celui qui t'a trouvé. La langue ne peut le dire, ni la plume l'exprimer. Qui vers Jésus se retire n'a point de mots pour décrire ce que c'est que l'aimer. Sois au Jésus notre joie, toi qui seras notre ciel. Et qu'au terme de la voie, ta gloire en nous se déploie.